Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, on va accueillir dans quelques instants Michel Flandin pour son dernier livre, La Petite Marchande de Bonheur. Il vient nous parler de son livre qui est très récent. Eh bien, avec lui, on va découvrir cette Petite Marchande de Bonheur et puis revoir un peu tous les livres qu'il a écrits déjà, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc c'est notre invité du jeudi qu'on retrouve dans quelques instants.
Que tu la espalda me das, cuando te miro yo veo. Que tu la espalda me das, si lo haces porque soy feo, la culpa de yo tiene papá.
Ave María Lola, conmigo vas a acabar.
Ah, mira, mira Lola.
Voilà donc, Michel Flandin est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors on va parler de son dernier livre, La Petite Marchande de Bonheur, mais avant on va revenir un peu sur tout ce qu'a fait Michel, parce que ça dure depuis quelques années, hein Michel?
Depuis 2008, mon premier roman.
Depuis 2008. Alors t'as fait quelques recueils de poèmes hein, avant, enfin
oui.
Ou pendant ou,
oui, oui ben, quand j'étais adolescent j'écrivais des poèmes, et puis normalement ça passe, et puis moi ça m'est resté, donc j'ai publié quelques recueils au fil du temps. Hein,
voilà. Alors on va parler surtout des romans, donc ça commence en 2010, puisque tu as écrit...
2008.
2008.
Il a été réédité, donc, en fait.
Ah oui, d'accord, il a été réédité. Roman. C'est La Balade du Cantonnier.
La Balade du Cantonnier,
d'accord, oui, il a été réédité en 2010.
Hein. Voilà, c'est,
ouais,
ça.
C'est ça. Donc, ça a été ton premier roman, en quelques mots.
L'histoire d'un cantonnier qui accompagne une famille de gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer.
Voilà, c'est ça, oui, que ça l'entraîne un petit peu loin, et puis il va découvrir un autre monde.
Hein. Un autre monde, avec des rencontres, des surprises aussi, un trajet animé.
L'évasion de Delphine, alors là, c'est une grand-mère, hein, autant que je me souvienne, de tête,
oui.
Qui a un rêve.
Qui se perd un peu.
Oui, mais qui a un rêve.
Voilà, qui est dans l'enfance et qui a une espèce de projet un peu fou de vouloir marcher sur l'eau. Et donc, elle va être en maison de repos, ici à Craponne. Et donc, l'aide-soignante qui va s'occuper d'elle, Babou, va trouver un peu des codes pour rentrer en communication avec elle et l'accompagner dans son délire.
Oui, c'est une belle histoire parce que, en fait, c'est la vieillesse, on peut le dire d'un côté.
Oui.
Et puis, d'un autre côté, la jeunesse
la
qui...
Jeunesse.
Ben, qui marche dans sa combine, on va dire, qui marche dans son rêve.
Hein? La complicité qu'il peut y avoir, voilà, entre deux femmes de générations différentes, l'une pouvant être la grand-mère de l'autre. Voilà.
Après, tu as fait Le Cueilleur du Petit Matin. Là, j'ai toujours, il faut que je me remémorise. Hein. Là, on revient un peu avec le ramasseur d'ordures,
oui,
c'est ça hein?
Oui, c'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Cueilleur du Petit Matin, donc un personnage qu'on côtoie tous et qu'on remarque pas. Hein, c'est le ramasseur de poubelles du matin, le Reaper qui ramasse nos poubelles. Et l'idée, c'était de parler un petit peu de ce métier et puis de ce personnage qui a une vision un peu, une vision des choses, un regard, une perspective un peu différente. Puisqu'il nous observe à l'envers, quelque part, à des heures où on ne le remarque pas, nous.
Déjà, on n'est pas levé souvent.
Et l'idée, c'était que ce personnage donc, cueille des instants, observe les gens. Il va cueillir des indices aussi, il va contribuer à l'aboutissement d'une enquête. Alors, c'est un roman qui se passe dans la vieille ville du Puy. C'est une façon aussi de parler un peu du quartier de la cathédrale, de la vieille ville du Puy. Avec ce regard un petit peu en perspective inversée.
Et puis Victorine, alors ça c'est une histoire qui tient à cœur, parce que c'est l'histoire de ta grand-mère.
Oui, Victorine, donc ma grand-mère, qui a vécu de 1898 à 1990 à Saint-Pierre-du-Champ, pour les gens qui connaissent, dans le village de Vermoyal, qui a passé toute sa vie sur Saint-Pierre. Elle a appris le métier de couturière, mon grand-père fabriquait des galoches, mon grand-père était originaire de Saint-André. Voilà, une histoire locale, mais aussi l'évocation du siècle dernier, avec le passage des deux guerres, l'arrivée du progrès qui a changé, les façons de travailler, notamment la terre, les mentalités, la condition des femmes.
Après, il y a eu le rêve du chat. Alors ça, c'est autant que je me souvienne aussi. Ça se passe avec un marchand de pizza, c'est
oui.
ça ?
Oui, marchand de pizza, un métier que j'aime bien. Moi, j'aime bien aller chercher ma pizza au camion. Et je trouvais que c'était sympa d'imaginer une histoire autour de ce camion de pizza, sachant qu'il y a tout un tas de gens qui tournent autour, hein, qui vont chercher leur pizza. Donc il y a déjà un espèce d'univers, un peu comme dans un bistrot. Et voilà, l'idée, c'était de faire se rencontrer ce marchand de pizza avec une de ses clientes, qui s'appelle Iris et qui a un chat, et en fait il va y avoir une complicité entre l'un et l'autre autour des chats, parce qu'ils ont chacun un chat, et les chats vont être entremetteurs, ils vont permettre l'amorce d'une histoire. Alors c'est une histoire qui se passe à Issingeaux. Pourquoi Issingeaux? Parce que j'y habite. Ça faisait longtemps que des voisins me disaient: ça serait bien que tu racontes une histoire qui se passe chez nous. Donc ça commence un jour de carnaval à Issingeaux. Et ça se passe dans cette belle commune ce qui m'a plu d'emblée, ça a été aussi le nom des villages. Alors il y a tout un tas de noms de villages que je trouve croustillants, moi. J'en citerai simplement deux: Combari Batou et Ratapiala. Je trouve que déjà, c'est déjà pas mal.
Ça parle.
Ça parle.
Après, tu as fait La Liberté des Orteils. Alors là, c'est quelqu'un qui se balade, en fait. Hein.
Alors, c'est une histoire qui est un peu plus grave. C'est l'histoire d'un SDF qui part avec son sac à dos. On voit des gens, on croise des gens un peu dans notre univers, là, qui traversent, comme je dis, notre espace, lieu et temps. Et on ne sait pas trop d'où ils viennent, où ils vont, quelle est leur histoire. Donc, j'ai imaginé l'histoire de ce personnage qui s'appelle Franco. L'histoire se passe en deux parties. Une première partie à la première personne, donc c'est un peu les émotions de ce Franco, et puis la deuxième partie à la troisième personne, qui permet aussi de voir le regard que les gens portent sur lui.
Après, il y a eu Les Bourdons du Clocher. Là, on revient à Saint-Pierre-du-Champ. Hein.
Oui,
peut dire que c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu la vie de Saint-Pierre-du-Champ, mais au travers du club de foot. Hein.
Oui, ouais. ça se passe dans les années 80, l'époque où je jouais au foot à Saint-Pierre. J'étais le modeste gardien de but de l'équipe, mais on a eu, comme toutes les équipes, des troisièmes mi-temps mémorables. Alors c'était un peu l'histoire de... Voilà, j'ai voulu me faire plaisir à raconter un petit peu tout ce qu'on avait pu faire. Alors cette idée, elle est née un soir où on s'était mis à se remémorer avec mon beau-frère nos souvenirs de Saint-Pierre. Et je me suis dit que ça serait bien de raconter une histoire. Alors pour muscler un peu le tout, j'ai imaginé qu'un projet routier menaçait de couper le stade en deux. Donc ça déclenche la guerre dans le village automatiquement. Tout le monde monte au créneau, le maire, le curé, toutes les associations. Voilà.
Et L'Arbre aux mille écus, donc ça c'est ton avant-dernier livre.
Alors L'Arbre aux mille écus, en fait, c'est un roman aussi qui a été réédité. C'était mon deuxième et c'était une suite de La Balade du cantonnier. Ça se passe à Lyon, dans les vieux quartiers de Lyon. Une histoire d'amour avec une jeune fille qui cache un secret. Voilà.
Oui, donc parce que, oui, ça y est, je me remémore, mais c'est parce qu'il y a tellement de bouquins. Oui, c'était donc ce cantonnier qui, en fait, va faire un stage à Lyon.
Hein, c'est un stage en horticulture, voilà, ouais. D'où le titre « L'arbre aux mille écus ».
Très bien. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben, c'est ton dernier livre, « La petite marchande de bonheur ». Alors, c'est une jeune fille, hein, qui a un magasin de fleurs.
Oui, qui est fleuriste.
Qui est fleuriste. Alors, tu l'as située...
Dans mon esprit, c'est plutôt sur la région Issingelaise.
D'accord.
Mais ça sillonne un petit peu dans toute la Haute-Loire, un petit peu en Ardèche aussi. Enfin, c'est assez itinérant aussi, hein, puisqu'il va y avoir des personnages qui vont se déplacer. Oui, j'aime bien. Le livre, c'est un voyage qui ne coûte pas cher. Donc, voilà, oui. Autant en profiter. Les gens peuvent, assis dans leur fauteuil, peuvent se promener un petit peu.
Donc, on va dire que, bon, au départ, tu l'appelais Zoé.
Zoé. Ah,
oui. C'est une fleuriste, bah, comme il y a beaucoup de fleuristes. Hein.
Oui.
Mais bon, elle va avoir une histoire peut-être un petit peu inattendue, hein, puisque elle a un compagnon qui s'appelle Joseph, oui. Et qui l'accompagne. Et puis, un jour, ça va se compliquer.
Oui. Alors donc, en fait, Zoé, c'est une... pourquoi donc, là, ça explique un petit peu le titre aussi, La petite marchande de bonheur. Elle aime son métier et elle est attachée à faire plaisir aux gens. L'idée aussi que j'avais, c'était, tous les gens de ma génération doivent s'en souvenir, même les gens un peu plus jeunes, quand on allait dans les Vogues, il y avait des distributeurs avec les boîtes, et sur les boîtes, il y avait marqué « plaisir d'offrir, joie de recevoir ». Et moi, j'ai eu envie d'écrire un petit peu sur le plaisir d'offrir. Donc cette fleuriste compose des bouquets, elle est attentive un peu aux souhaits de sa clientèle, alors ça va être pour telle attention, ça va être un cadeau amoureux, ça va être un cadeau familial, par exemple pour une mère, enfin, etc. Et en fonction de ça, elle va adapter un peu ses cadeaux. Donc elle est très attentive, elle est appréciée, du coup les gens vont la voir, elle aussi elle a tout son microcosme qui tourne autour. Et puis cette jeune fille qui est très enjouée, que les gens, dont les gens aiment la compagnie, va se trouver en difficulté un jour, parce que bizarrement, du jour au lendemain, son compagnon, Joseph, avec qui elle a une liaison solide et épanouie, va disparaître. Alors il y a tout un roman, toute une histoire aussi autour de cette disparition très inattendue. Qu'est-ce que ça va, donc évidemment l'histoire, mais je vais rester très, très succinct sur la disparition et sur ce personnage, parce que c'est aussi tout le sel de l'histoire.
Oui.
Mais ce que j'en dirais, c'est que il y a aussi tout ce qui se passe autour. Alors après, la clientèle, comment la clientèle va réagir, elle va voir aussi évoluer Zoé. Zoé sera tout à coup, on peut le comprendre, un peu moins attentive, un peu plus tête en l'air, un peu plus étourdie. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre le relais? Est-ce que elle va pouvoir s'appuyer à son tour sur de l'amitié? Est-ce qu'elle devra faire face seule à son problème? Voilà, tout va tourner autour de cette histoire. Donc, plaisir d'offrir. Et puis, alors c'est là que je reviens un petit peu sur ma fameuse boîte des fêtes foraines. Joie de recevoir. Alors, est-ce que les deux marchent? Est-ce que les deux fonctionnent? Et puis, l'idée aussi, c'était parler aussi un peu du grain de sable. Vous savez, on a une vie qui est à peu près équilibrée. Tout va bien. Et puis, tout à coup, paf, il y a un petit grain de sable qui vient se glisser. Et il y a tout un tas d'équilibres qui sont bousculés par ce minuscule grain de sable.
Oui, alors peut-être que oui, tu dis après, c'est vrai que bon, c'est une fille qui était très attentionnée, qui faisait son vrai métier, quoi, qui est les fleurs. C'est vrai que quand on va acheter des fleurs, souvent, bon, à part pour les décès, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est souvent, comme tu disais, pour la fête des mères, des grands-mères, pour un anniversaire. Donc c'est pour faire plaisir qu'on offre des bouquets de fleurs. Et là, donc elle a une relation avec la clientèle qui est très, très proche, hein, puis surtout elle sent bien sa clientèle. Mais là, est-ce qu'un retour, elle maintenant qui va être embêtée, qui a ce problème d'avoir perdu son compagnon, est-ce que la clientèle va lui renvoyer ce qu'elle a donné? C'est ça un peu, non?
Alors c'est ça un peu l'enjeu. Donc il y a des gens qui vont être attentifs, et puis il y en a d'autres qui seront plutôt attentifs à leurs problèmes à eux, qui ne seront pas forcément attentifs aux siens. Voilà, tout va tourner un petit peu autour de cette histoire. Donc, j'ai pas dit, oui, l'histoire commence un jour de Saint-Valentin aussi, ça se situe un petit peu un 14 février. C'est une histoire qui est très printanière, donc elle est bien de saison. C'est un roman qui se veut, qui est gay. Hein. Bien sûr, il y a une disparition, mais c'est pas du tout un roman qui est morbide. Si je peux rassurer un peu les lectrices et les lecteurs, c'est quand même une histoire qui finit bien. Donc, c'est pas du tout, c'est pas un roman, je vais dire, qui est gore ou non. C'est plutôt une réflexion autour des sentiments humains et autour des fleurs qui célèbrent un petit peu tous ces sentiments humains. Avec les couleurs, le rouge de la passion, le rose de la tendresse, le blanc qui est plutôt, qui s'adresse souvent plutôt au respect. Donc on va penser aux roses blanches de Bert Silva, par exemple, hein, pour sa maman. Les fleurs aussi elles-mêmes. Alors les fleurs, quelles fleurs choisir? C'est un peu le dilemme qu'on a, nous, quand on est, nous les hommes, des fois quand on veut offrir un bouquet, qu'on a une attention particulière. Moi, je sais que j'ai souvent le réflexe d'acheter une rose rouge, parce que la rose rouge, la rose, c'est la passion, et ben souvent c'est pour ma compagne, donc pour Muriel, hein, que j'achète des fleurs. Mais il y a tout un tas de choses différentes aussi. On peut jouer avec différentes fleurs. J'ai découvert par exemple que la tulipe aussi était une fleur qui célébrait l'amour sincère aussi, ce que je savais pas du tout. Voilà, donc c'est assez étonnant. Et j'ai découvert aussi, ça fera plaisir aux femmes, que le mimosa est la fleur emblématique de la journée de la femme, le 8 mars. Il y a beaucoup de pays ce jour-là qui distribuent gratuitement des mimosas. Alors on n'en est pas là encore en France, mais bon, ça peut peut-être donner des idées.
Oui, donc on voit qu'autour de ce roman, tu as quand même fait une étude sur les fleurs, hein, sur un peu
oui,
la...
sur le métier, le métier de fleuriste.
Les métiers de fleuriste et puis les fleurs qui veulent dire quelque chose.
Oui.
Hein, c'est vrai que, bon, on connaît les roses, on connaît un peu en général, mais il y a beaucoup de fleurs en fait qui ont des significations.
Oui. Et puis alors donc il y a aussi le cheminement, l'approvisionnement des fleurs. Alors on sait tous que la Hollande est le pays des fleurs, le pays des tulipes. Et donc j'ai imaginé que, alors actuellement donc les fleurs sont surtout cultivées on va dire en Afrique, enfin donc elles viennent de très loin, mais ce qui est très bizarre c'est qu'en fait tout va transiter en Hollande. La Hollande a gardé ce savoir-faire, c'est-à-dire que c'est la plateforme de distribution. C'est très étonnant parce qu'en fait ça pourrait arriver directement de ces pays-là en France, mais ça va tout transiter en Hollande. Et donc j'ai un personnage qui est hollandais, qui s'appelle Willy, qui va arriver, qui passe toutes les semaines avec son camion réfrigéré et qui apporte des fleurs et qui lui aussi va avoir sa place dans l'histoire. Alors il y a toute une palette de personnages. Il y a le frère aussi de Zoé, qui s'appelle Aimé, qui est toujours très malheureux, qui s'apitoie, qui est un peu dans le rôle de la victime. Et Zoé l'a toujours appelé avec humour le mal aimé. Le mal, donc l'homme, le mal aimé, et voilà. Mais ce mal aimé va être tout à coup très attentif à sa petite sœur. Voilà, quelques personnages aussi masculins qui sont des amoureux transis qui attendent un petit peu dans l'ombre. Il y a Manu, donc, qui est un jeune d'origine portugaise. Qui flambe pour ses yeux brillent pour une jeune femme. Qui lui sourit peu, alors qu'est-ce qui va advenir? Et puis quelques personnes âgées aussi, moi c'est vrai que dans mes romans, j'ai toujours une sensibilité avec les personnes âgées, donc j'en ai bien cité quelques-unes, et quand Jean-Pierre, tu parlais tout à l'heure aussi de l'évocation de la fleur autour de l'enterrement aussi, pour célébrer un souvenir, je trouvais aussi que c'était intéressant de l'évoquer, voilà.
Alors tu parles de la Hollande, bien sûr, Amsterdam, où il y a un fabuleux marché des fleurs, et puis où il y a, alors ceux qui n'ont jamais été en Hollande, si vous y allez un jour, il y a, surtout que c'est bientôt l'époque là, parce qu'au mois de mai, c'est où il y a la floraison, il y a un fabuleux, comment on peut appeler ça, un parc qui s'appelle Keukenhof, et ou alors là, si vous voulez voir des belles choses.
Mais
là, c'est magnifique, parce qu'en fait, c'est tous les producteurs, enfin les grands producteurs, qui ont chacun une partie du parc et qui décorent. Donc ils décorent à leur idée, mais toutes les années c'est pas pareil. Mm-hmm. Mais quand on y va au mois de mai, on rêve là. Hein. Ouais. On rêve complètement hein, parce que c'est Keukenhof. Ouais. Voilà, ça s'appelle Keukenhof. Et les fleurs, bien sûr, les champs de tulipes en Hollande. Alors c'est quelque chose, hein, ce pays. Et comme tu le disais, c'est vrai que tout passe par la Hollande, même les fleurs qui sont.
C'est très étonnant.
Ouais, c'est très étonnant. Ils ont gardé cette mainmise sur. Ben, vous voyez que ça va vous permettre de découvrir plein de choses sur les fleurs. On sait que les fleurs, hein, ben, tout le monde aime bien fleurir sa maison, hein, ouais. Tout le monde aujourd'hui avec Michel Fernet, on parle de son dernier roman, La Petite Marchande de Bonheur. Ah, bien sûr, on ne va pas vous révéler ce qui va se passer. Est-ce qu'elle retrouvera Joseph? Peut-être. Pourquoi Joseph est parti? Point d'interrogation. Pourquoi il a disparu? Il y a sûrement une raison. Bien, pour la connaître, cette raison, il faut lire le livre de Michel Flandin, La Petite Marchande de Bonheur. On va peut-être pas aller bien plus loin, parce qu'on en a dit déjà pas mal, non?
Oui.
Faut pas donner l'intrigue.
Ce que je peux simplement, enfin, si c'est possible, je lirai juste un tout petit passage. En fait, c'est.
Ah ben si tu veux, vas-y.
Zoé a un poisson rouge, et je me suis amusé à poser un petit peu le regard que peut avoir un poisson rouge sur nous. Alors je vais lire simplement un tout petit passage qui est, voilà, qui donne un petit peu une certaine ambiance, on va dire.
Allez, on t'écoute.
Sous la feuille de fougère en plastique qui est censée me servir de cachette, je les observe. Ils sont étranges, avec leur façon de marcher debout. Ils s'agitent, sont si bruyants. Je ne vais pas me plaindre puisqu'ils me donnent à manger. Daphnie séchée. Je ne dirai pas que je les aime ni que je les déteste puisque je n'ai pas le choix. Disons que je me suis habitué. J'ai l'eau du robinet pour unique courant à volonté. Enfin, n'exagérons rien, seulement le volume du récipient que j'occupe. C'est bien là mon principal souci. S'ils savaient que j'ai des envies d'océan, de houle, d'équinoxe, oh, je n'irais pas jusqu'à leur demander l'épave d'un vieux galion pirate pour dormir, non. Côté sommeil, la feuille de fougère me suffit amplement. Mais bon sang, un peu de mouvement, le calme plat me lasse. Tu as beau faire un tour, puis un autre, dans un sens et son contraire, descendre ou remonter, ce n'est pas le grand frisson. Notre espèce animale doit avoir sûrement une forte capacité d'adaptation pour supporter cela, pour même y survivre. Je voudrais les y voir, eux, tout nus dans un bocal. parce que tout le monde vous regarde, où que vous soyez, aucune intimité possible, la pudeur est arrangée définitivement aux oubliettes.
Donc c'est ton poisson rouge qui parle là.
C'est le poisson rouge.
Donc qui fait partie
qui
aussi...
Qui s'appelle Bouchon, qui fait partie de l'histoire.
Qui fait partie de l'histoire. ce livre, hein, La petite marchande de bonheur de Michel Flandin, au Sentier de l'écume. Hein, c'est ton... D'ailleurs, c'est ton site où on peut aller voir toute ton actualité. Hein.
Oui, alors il est actualisé régulièrement, toutes les semaines. Hein, il y a des nouvelles informations pour donner un petit peu envie aux internautes d'aller s'y promener. Alors moi, je suis très content de voir que les gens y vont. Les gens vont régulièrement sur ce site, voir un petit peu des informations. Donc il y a tous les renseignements sur nos, à la fois sur nos publications, alors à Muriel et à moi, puisqu'on écrit tous les deux avec Muriel. Et puis il y a les jours de dédicaces aussi.
Très bien. Et puis on va parler justement de ces dédicaces.